RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditeurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. La ministre Sri Mulyani encourage l'utilisation des bonus démographiques. Le ministre des Transports de l'Indonésie rencontre l'Australie à la suite de l'interdiction du vol de Lion Air. Les Moluques pourraient devenir l'axe de puissance de l'Indonésie. L'association des producteurs de l'huile de palme indonésienne, GAPKI, projet, le volume d'exportation de l'huile de palme brute augmente 7% en 2018. L'Indonésie et l'Allemagne renforcent leur coopération industrielle 4.0. Et enfin, l'Indonésie est le partenaire officiel du plus grand salon industriel d'Europe. Voici le journal complet. La ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, encourage l'utilisation des bonus démographiques ou la domination de la population productive afin d'avoir un impact positif pour le peuple et l'économie. Les conditions sont, entre autres, la démographie, en particulier la jeune génération, doit avoir la qualité. La ministre Sri Mulyani, citée par l'agence de presse Antara, a déclaré mercredi à Jakarta que l'investissement dans les domaines des ressources humaines, tels que l'éducation et la santé, était la clé pour obtenir une population jeune de bonne qualité. En outre, les efforts du gouvernement sont également nécessaires pour réduire le seuil de pauvreté afin que les membres des familles pauvres ne soient plus pauvres. Par conséquent, les politiques dans le secteur de l'éducation qui ont été mandatées à 20% dans le secteur de la santé et des filets de sécurité sociale pour préparer des bonus démographiques peuvent avoir un impact positif. Le ministre indonésien des Transports, Budi Karya Sumadi, a l'intention de demander au gouvernement australien de clarifier sa politique interdisant à ses citoyens de voyager en avion Lion Air. Le ministre Budi Karya Sumadi, cité par l'agence de presse Antara au palais présidentiel, a déclaré que sa parti parlerait et demanderait des explications sur cette interdiction. Cette interdiction a peu d'impact car seuls quelques avions de Lion Air desservent l'Australie, alors que de nombreux vols internationaux de Lion Air sont à destination de Singapour et de la Malaisie. Le ministre a dit que ce n'était pas le problème, mais comme il s'agit d'une question de réputation, l'Indonésie doit demander des clarifications. Le gouvernement australien a annoncé que la décision serait réexaminée une fois que les résultats des enquêtes sur les causes de l'accident de l'avion seraient connus. Le membre de la commission 2 du Parlement indonésien, Komarudin Watubun, a estimé que les Moluques pourraient devenir un axe économique indonésien au 21e siècle, car cette province possède des valeurs historiques et économiques pour l'Indonésie depuis le 12e au 20e siècle. Comme cité par Antara, Comarudin a déclaré à l'Université d'Indonésie à l'époque Java Occidental que, lors d'un voyage dans l'histoire indonésienne, la piste économique appelée la voie des épices et les Moluques sont devenus le point central. Les Moluques sont le meilleur producteur d'épices du monde. Il s'agit de la marchandise la plus chère du commerce et a vaincu le prix de l'or au XVIe siècle. Selon lui, la zone sert de base à la production, aux fournisseurs et au transit de flux de marchandises et de services, des minéraux stratégiques, des traits humains, des biens, des services, d'argent et d'informations. L'Association des producteurs d'huile de palme indonésien ou GAPKI projette le volume d'exportation de l'huile de palme brute augmentera plus de 7% à la fin de 2018. C'est ce qu'a déclaré le président de GAPKI, Joko Supriyono, à l'ouverture de la 14e conférence internationale sur l'huile de palme indonésienne et des perspectives 2019 à Nusa Dua, Bali, jeudi. Les exportations d'huile de palme brute et de ses produits dérivés de janvier à septembre ont augmenté de 4% par rapport à la même période de l'année dernière. Joko Supriyono estime qu'au cours des trois prochains mois, depuis septembre, les exportations d'huile de palme brute et de ses dérivés augmenteront de plus de 7%. L'optimisme de la croissance des exportations n'est pas sans raison. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a affecté la baisse des importations d'huile de soja chinoise en provenance des États-Unis. Cette situation est une opportunité pour l'huile de palme brute de combler la pénurie d'huile végétale sur le marché chinois, a déclaré Joko Widodo. Le président Joko Widodo ou Jokowi a reçu le ministre de l'économie et de l'énergie de la République fédérale d'Allemagne, Peter Altmaier, au Palais Merdeka à Jakarta jeudi. À cette occasion, le président était accompagné du chef du conseil de coordination des investissements, Thomas Lembong, et du ministre de l'énergie et des ressources minérales, Ignatius Jonan. Après la réunion, Thomas Lembong expliquait que le président Jokowi et le ministre Altmaier ont discuté de la révolution industrielle 4.0. L'Allemagne est très forte dans l'intérêt industriel ou B2B, d'entreprise à entreprise, mais reste faible en B2C, entreprise à consommateur. Bien que nous soyons forts en B2C comme Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, c'est tout B2C. C'est un exemple où nos forces se complètent. Le ministre a dit que peut-être le plus important de la quatrième technologie industrielle ou 4.0 était l'intelligence artificielle. L'intelligence machine. À son avis, c'est la création la plus puissante depuis la machine à vapeur il y a 200 ans. À l'avenir, dans le secteur industriel, l'intelligence des machines sera la même que l'impact de l'électricité. Thomas Lembong, le chef du BKPM, a déclaré que le président Jokowi et le ministre Altmaier ont également discuté de la formation professionnelle. Cela a été discuté par l'Indonésie et l'Allemagne lors de la visite de Jokowi en Allemagne il y a 3 ans. La formation professionnelle dans ce cas est la formation professionnelle, les compétences pratiques pour les travailleurs pour maîtriser la génie mécanique, les machines telles que les machines industrielles, les machines automobiles. En ce qui concerne l'industrie 4.0 ou la 4e révolution industrielle, ils ont parlé de robotique et d'automatisation. L'Indonésie est un pays partenaire officiel du plus grand salon industriel d'Europe, Hannover Messe. Ceci est indiqué dans le contrat de coopération entre le ministère indonésien de l'Industrie et le ministère allemand de l'Économie et de l'Énergie. Le ministre indonésien de l'Industrie, Airlangga Hartarto, a déclaré jeudi à la presse à Jakarta que de tous les pays de l'ASEAN, l'Indonésie était la première à devenir le partenaire national officiel de cette exposition. Il a communiqué cette information avec le ministre allemand de l'économie et de l'énergie, Peter Altmaier, après avoir assisté à la signature du contrat entre le chef de l'agence de recherche et de développement industriel du ministère de l'Industrie et de la Culture, Ngakan Timur Antara, et Jochen Kochler, président du directoire Deutsche Messe AG. Selon Airlangga, en tant que partenaire national officiel, l'Indonésie aura l'occasion de présenter ses produits de qualité supérieure lors de l'événement qui se tiendra en 2020. La participation de l'Indonésie à l'exposition est l'un des efforts visant à renforcer le rôle de l'industrie manufacturière dans l'économie indonésienne. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serviteur, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, le problème des migrants de Trump. Le président des États-Unis, Donald Trump, est mal à l'aise face au problème des immigrants qui inondent les États-Unis de la zone d'Amérique centrale. Bien qu'il y ait un peu d'appréciation pour les mesures prises par le Mexique pour empêcher le flux d'immigrants vers les États-Unis, Trump continue de déployer des troupes dans la région frontalière. Au moins plus de 5 000 soldats équipés de balles-rails ont reçu l'ordre de surveiller la frontière. Cela signifie que Trump ne donne pas l'occasion aux immigrants qui tentent d'entrer illégalement aux États-Unis. De plus, avant les élections partir en Amérique, Trump ne veut pas perdre son élan afin d'empêcher les démocrates d'obtenir des sièges au Parlement. Trump a fait de l'entrée des migrants comme problème principal de cette élection partielle. Ce que Trump fait n'est pas identique à la politique précédente. Pour les migrants qui sont entrés aux États-Unis, Trump construira une ville de tente pour leur abri. Les migrants resteront dans ce foyer pendant 3 ans jusqu'à ce que leur demande d'asile soit acceptée. Les enfants nés pendant cette période n'obtiendront plus automatiquement le statut de citoyen américain. L'espoir de Trump avec cette politique, il n'y a plus d'immigrants qui veulent entrer aux États-Unis. Dans la politique précédente, les migrants étaient libérés lorsqu'ils présentaient une demande d'asile. Lorsqu'il y a une décision, les migrants ne comparaissent pas au procès. Trump n'applique plus cela. Ce que Trump fait, c'est en effet la priorité du gouvernement américain à mettre en œuvre pour le moment. Dans ce cas, ne pas ouvrir la porte aux migrants d'entrer aux terres des États-Unis. Ces politiques qui ne donnaient pas directement l'asile étaient la prérogative du président Trump. Ce que beaucoup de gens attendent, c'est l'attitude cohérente du président Trump sur cette question. Ainsi, le sort des migrants entrés aux États-Unis et ayant demandé l'asile est clair. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 2 novembre. Le 2 novembre 1949, l'Indonésie et les Pays-Bas ont signé le résultat de l'accord de la table ronde tenue à La Haye. La table ronde est une réunion qui s'est tenue à La Haye, aux Pays-Bas, du 23 août au 2 novembre 1949, entre des représentants de la République d'Indonésie, du Pays-Bas et du BFO, représentant divers pays créés par le Pays-Bas dans l'archipel indonésien. Avant cette conférence, il y avait eu 3 réunions de haut niveau entre le Pays-Bas et l'Indonésie, à savoir l'accord de Linggarjati 1947, l'accord de Renville 1948 et l'accord de Rumroyen 1949. Cette conférence s'est terminée par la volonté du Pays-Bas de céder leur souveraineté à la République d'Indonésie unie. La conférence a été officiellement clôturée le 2 novembre 1949 au Parlement néerlandais. Le 2 novembre 1963, le premier président du Vietnam Sud, Ngo Dinh Diem, a été tué lors d'un coup d'état militaire. Ngo Dinh Diem, Jean-Baptiste, était oncle du cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan. lorsque ce régime suscita une protestation menée par des moines bouddhistes en mai 1963, les États-Unis arrêtèrent leur aide. Un certain nombre de moines se sont ouvertement incendiés en signe de protestation et les États-Unis se sont sentis de plus en plus troublés par l'image publique impopulaire de Diem. Diem et Madame New ont affirmé que les communistes avaient infiltré des groupes bouddhistes. Leur action pour détruire des manifestations était conforme à la politique anticommuniste précédemment convenue. Ngô Đình Diệm, Jean-Baptiste, était coup d'État des forces armées dirigées par Duong Van Minh. Duong Van Minh et son complice ont renversé le gouvernement et exécuté le président Diệm et son jeune frère Ngô Đình Nu le 2 novembre 1963 à l'âge de 62 ans. Les États-Unis ont ouvertement exprimé leur surprise et leur déception quant à la mort de Diem. En six démons, le président John F. Kennedy a également été tué 20 jours plus tard. Certains Vietnamiens pensent que le fantôme de Diem s'est vengé parce que le président Kennedy a approuvé le coup d'État. Le 2 novembre 1964, le roi Saoud d'Arabie Saoudite a été éliminé par un coup de force familial et remplacé par son demi-frère Faisal. Saoud ibn Abdul Al-Aziz Al-Saoud est né le 12 janvier 1902, fut le roi d'Arabie Saoudite de 1953 au 2 novembre 1964. Il était le fils aîné du roi Ibn Saoud. Il fut ensuite installé prince héritier le 11 mai 1933 et fut semé roi à la mort de son père en 1953. Durant son règne, de nombreux bureaux du gouvernement furent établis, en plus de la création de l'université King Saud Ariad. Tout au long de son administration, les membres de sa propre famille ont exprimé beaucoup de mécontentement. Sa propre famille s'est battue pour le pouvoir en 1964 avec le soutien des oulémas. Bien que Mohammed bin Abdulaziz Al-Saud soit l'héritier du trône le plus approprié, il hésite à l'accepter et soutient la nomination de son demi-frère Faisal bin Abdulaziz Al-Saud comme roi le 2 novembre 1964. Le roi Saoud se rend ensuite à Genève, en Suisse, chassé de l'Arabie Saoudite. Il est décédé à Athènes, en Grèce, en 1969, à l'âge de 67 ans. Cher ami, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers lecteurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie et Norvège ont convenu d'intensifier la coopération. L'Indonésie et la Norvège conviennent de renforcer la coopération bilatérale en matière de commerce et d'investissement. L'accord a été conclu lors de la 4e réunion de la Commission de coopération bilatérale mixte Indonésie-Norvège, qui s'est également tenue parallèlement au dialogue sur les droits de l'homme entre ces deux pays dimanche, le 28 octobre à Nusa Dua, Bali. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont assisté à la réunion. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a indiqué que les deux pays avaient notamment abordé les aspects forestiers, énergétiques et les énergies renouvelables, qui sont soutenus par le projet de la mise en œuvre du Forum indonésien sur les affaires et l'énergie en 2019. Retno Marsudi a déclaré dans son communiqué de presse dimanche qu'à cette réunion, les deux pays ont discuté des questions de l'environnement, de l'énergie renouvelable, de la mer et de la pêche. En ce qui concerne la question environnementale, un programme de coopération appelé RED Plus avait été mis en avant lors de la réunion concernant la coopération en matière de l'environnement et de la foresterie. Le programme contribue à la résolution du changement climatique. Madame Retno Marsudi a ajouté qu'à la réunion du Nord, ces deux pays avaient également discuté de la lutte contre la pêche illégale et au développement d'une coopération économique maritime durable. La marine et la pêche sont également des domaines importants de la discussion, en particulier dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et le développement d'une économie maritime durable. Selon Madame Retno, la collaboration a également été suivie par la signature d'une lettre d'intention dans le cadre de la coopération dans les affaires maritimes et la pêche, qui s'est déroulée en marge de la tenue de la conférence de notre océan, ou WOC, du 29 au 30 octobre 2018. Pendant ce temps, la ministre norvégienne des Affaires étrangères, Ine Eriksen Søreide, a déclaré que les deux pays étaient résolus à coopérer plus étroitement, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme, la déforestation et le transport maritime. Son côté se réjouit également de pouvoir progresser dans un dialogue conjoint de la Commission sur la coopération bilatérale dans le domaine des droits de l'homme. Selon Søreide, la Norvège est également inspirée et a appris de l'Indonésie en tant qu'hôte de la conférence de notre océan 2018. De plus, la Norvège acquérera WOC 2019. La quatrième réunion de la commission mixte indonésienne et norvégienne et le 13e dialogue sur les droits de l'homme indonésien et norvégien qui s'est tenu dimanche le 28 octobre 2018 à Nusa Dua, Bali. Sur le top, c'était mon Indonésie pour ce soir. Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le magazine culturel. Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous. On se retrouve avec moi Tiwi dans la rubrique du magazine culturel. Comme d'habitude, vous pouvez écouter notre émission par la diffusion en direct à www.voinews.it. Aujourd'hui, je vous invite à visiter la province de Bali pour regarder la beauté de la plage de Pasi Uug. Restez donc avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. Bali est une province qui n'a jamais été désertée par les touristes. En plus de la cuisine appétissante, les attractions touristiques, en particulier le tourisme maritime, sont également magnifiques. C'est pourquoi de nombreux touristes locaux et étrangers veulent aller à Bali pour y passer leurs vacances. Chers auditeurs, visitez Nusa Penida, une petite île située au sud-est de l'île de Bali, pour profiter de la beauté et du caractère unique de la plage de Pasi Uug. Parmi les touristes étrangers, la plage est mieux connue sous le nom de Broken Beach ou en français, la plage cassée. « nos auditeurs, la plage de Passy Uug est située dans le village de Bunga Mekar à Nusa Penida, loin des zones résidentielles. Pour cela, cette plage est parfaite pour vous, en particulier pour ceux qui veulent trouver la paix. La plage de Passy Uug est toujours très naturelle et offre une vue imprenable sur la mer. La plage est également entourée d'herbes vertes, ce qui la rend encore plus parfaite, et le son de vagues qui sonne comme une musique mélodieuse. Les vagues sur cette plage sont assez calmes, elle est donc parfaite pour ceux qui veulent méditer et veulent vraiment passer des vacances dans un endroit calme. Chers auditeurs, pourquoi cette plage s'appelle-t-elle Broken Beach, ce qui signifie une plage cassée? En balinais, Passy Uug signifie une plage cassée. C'est parce que la plage est entourée de hautes falaises avec des trous au milieu. La hauteur de la falaise est d'environ 50 à 200 mètres où se trouve un grand trou au milieu. Si on regarde dans notre, cette plage ressemble à un puits géant coulé par l'eau de mer. Cette falaise creuse ressemble à un pont qui rend cette plage unique, exotique et enchanteresse. Vous ne rencontrerez pas ce phénomène naturel ailleurs. Donc, beaucoup de touristes sont curieux et veulent le visiter. Chers auditeurs, il y a deux façons pour aller à la plage de Passy Uug. La première, vous pouvez partir de la plage de Sanur en utilisant un bateau rapide dont le temps de parcours est d'environ 30 à 45 minutes. Et le deuxième, en utilisant un ferry depuis le port de Padang Bay. De ces deux manières, vous n'arriverez qu'à l'île de Nusa Penida. Pour arriver à la plage de Passy Uug, vous pouvez continuer en louant une voiture ou une moto dont le temps de voyage est environ 1h30. Chers auditeurs, en vacances à la plage de Passy Uug va vraiment vous rafraîchir. Sur cette plage, vous pouvez nager, mais vous devez être accompagné d'un guide. Parce que même si les vagues sont calmes, c'est toujours dangereux pour ceux qui ne sont pas habitués à nager seuls. Vous devez également faire attention aux conditions météorologiques et aux marées. Chers auditeurs, c'est toute l'édition de l'Indonésie en couleur d'aujourd'hui sur la plage de Pantai Passy Uug. On se retrouvera avec d'autres sujets intéressants. Au revoir.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présent les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Salut, bonsoir, voici l'Indonésie en couleur et en titre, le festival d'alphabétisation scolaire. Restez à l'écoute sur www.voynews.id. À l'occasion de la journée du serment des jeunes, le ministère de l'Éducation et de la Culture organise à nouveau le Festival de l'alphabétisation scolaire, ou FLS, du 28 au 31 octobre 2018. Cette année est la deuxième fois. Le thème de FLS de cette année est l'alphabétisation pour former des apprenants tout au long de la vie. Hamid Muhammad, directeur général de l'enseignement primaire et secondaire, a expliqué que FLS est une fête de l'alphabétisation qui accueille des écolières, des enseignants et des directeurs, des activistes de l'alphabétisation, des gestionnaires de parcs de lecteurs communautaires, des organisations non gouvernementales, des universitaires et des éditeurs, des institutions partenaires et des parents. L'ouverture de FLS a eu lieu à Plaza Insan Berprestasi du ministère de l'Éducation et de la Culture de Senayan, Jakarta, dimanche matin. Lors de ce festival, une exposition sur l'alphabétisation a eu lieu dans la zone de Plaza Insan Berprestasi, le bâtiment Ki Hajar Dewantara du ministère de l'Éducation et de la Culture, Senayan, à Jakarta. Au cours du festival, diverses activités ont été organisées, telles que les discussions interactives, l'alphabétisation, le lancement de livres et les projections de films. En outre, un concours d'alphabétisation est organisé et coordonné par chaque direction technique. La compétition a eu lieu à plusieurs endroits autour de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang et Bekasi. Pour le niveau de l'école primaire, un concours d'écriture de nouvelles, de lecture de poésie, de création de poèmes, de poésie et de narration a été organisé. Pour l'école secondaire, il y avait un concours de création de l'histoire courte, de poésie, de narration et de débat en langue indonésienne, alors que pour le lycée, il y avait un concours de création de l'histoire courte, de poésie et de bande dessinée. Pendant ce temps, la direction du développement de l'école professionnelle a organisé un concours d'histoire de sagesse professionnelle de Nusantara en anglais de lecture professionnelle, la création de livres électroniques pour responsables de la vocation professionnelle de l'archipel et le passage à des modes d'alphabétisation professionnelle. Pour l'enseignement supérieur, les participants au festival ont également organisé un concours de contest et de lecture de poèmes, fait en synopsis, créé des bandes dessinées, lu de la poésie et fait de l'écriture créative. Par le biais de FLS, le public devrait prendre conscience que l'alphabétisation fait partie de la vie quotidienne. L'alphabétisation n'est ni nouvelle ni exclusive. L'alphabétisation peut être célébrée chaque jour. En outre, le directeur général Hamid a déclaré que FLS est capable de créer des liens entre les écoles, les communautés et les familles au sein d'un mouvement commun, à savoir le mouvement pour l'alphabétisation. C'est Rita, c'est l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt. C'est Rita, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada. Le magazine musical vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical qui vous présente les chansons indonésiennes. Dans cette édition, je vais vous présenter les chansons de la province de Jambi. Restez avec nous à RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie que vous allez écouter à la diffusion en direct de www.voinews.id à 3,3 de 5 kHz ou à l'application de RRI Play sur votre téléphone portable. Pour ouvrir l'édition d'aujourd'hui, écoutons une chanson intitulée Ketimun Bungkuk. Bonne écoute. Chers auditeurs, nous venons d'écouter Ketimun Bungku qui a été chanté par Nana Sabrina. La chanson de Jambi a été créée par Yahya Abe. Cette chanson raconte une personne dont la vie est remplie d'épreuves, comme obtenir souvent des insultes et des manquements matériels. Mais à la fin des paroles de cette chanson, il y a un message qui dit que dans la vie, nous ne sommes pas toujours heureux et toujours tristes. La roue de la vie tourne toujours, alors après avoir eu une preuve, le bonheur viendra sûrement. Chers auditeurs, l'autre chanson de la province de Jambi que nous allons écouter s'intitule Selendang Mayang.
Selendang, selendang mayang, rambutnya merah sebelah tu.
Voilà la chanson dont le titre est Selendang Mayang par Lina Kamsan. Comme les chansons régionales de Jambi en général, les paroles de cette chanson contiennent également pantun, un genre oral traditionnel propre à la langue malaise, car la communauté Jambi est fortement influencée par la communauté malaise. Cette chanson parle de la dextérité dans l'exécution des tâches. Donc, pour faire une tâche, par exemple, lorsque vous travaillez, vous devez être agile et habile. Chers auditeurs, ensuite, écoutons la chanson intitulée Batang Hari par Susi. Bonne écoute! Chers auditeurs, voilà la chanson intitulée Batang Hari par Susi. Les paroles de cette chanson parlent d'une rivière appelée Batang Hari. Cette rivière est la plus longue rivière de Sumatra et est un lieu touristique célèbre de la province de Jambi. Cette chanson décrit la rivière de Batang Hari dont le débit d'eau semble calme, mais en fait, le débit d'eau est lourd. Chers auditeurs, c'est toute l'édition du magazine musical d'aujourd'hui. Pour la terminer, je vous donne la chanson de Victor Huta Barat dont le titre est « Dodoy, si Dodoy ». Cette chanson est généralement chantée pour la berceuse de l'enfant. En outre, cette chanson évoque l'anxiété d'une mère qui espère que son enfant pourra entendre et comprendre. Bon, les auditeurs, voici la chanson intitulée « Dodoy, si Dodoy » par Victor Huta Barat. Bonne écoute et à demain!
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
C'est notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @voindonesia. SIA ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.